Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Retour sur les différentes activités du Saint-Père au cours de la semaine. L'espoir grandit en Éthiopie après les accords de paix entre le gouvernement et les rebelles du Tigré. L'église locale appelle à se pencher sur les autres poches de conflit dans le pays, notamment dans l'Oromia. Nous y reviendrons après les titres. Au lendemain de la trêve signée à Luanda, rebelles du M23 et armée congolaise s'observent. La population reste prudente. Le reste de l'actualité africaine nous conduit au Tchad, au Burkina Faso, au Nigeria. Veuillez retrouver également dans cette édition la méditation sur les textes du premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique A. Nous écouterons également le Père Édouard Adé, membre de la Commission théologique internationale, notre invité du jour dans cette édition. Voilà pour les titres. Les détails, c'est tout de suite dans ce programme que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Combé.
Ouvrons l'actualité de l'Église par la rétrospective des activités du pape de cette semaine qui nous est présentée par Stanislas Kambashi.
Parmi ses audiences de samedi, le pape François a reçu les membres de la direction centrale anticrime italienne. Tout en appréciant les travaux de ce corps spécialisé italien, le Saint-Père a centré son discours sur les thèmes de la journée internationale de la lutte contre la violence faite aux femmes, célébrée la veille, c'est-à-dire le vendredi 25 novembre, thème qui lançait l'appel à s'unir dans la lutte pour libérer les femmes et les enfants des diverses formes de violence. Pour vaincre cette bataille, a souligné le pape, il faut effectivement s'unir, collaborer, créer une synergie, un réseau qui ne soit pas seulement défensif, mais surtout préventif. La prévention, a fait observer le pape, est toujours une action décisive quand on cherche à éliminer une plaie sociale. François a conclu son discours en évoquant la figure de sainte Joséphine Bakita, femme religieuse qui a subi dans son enfance et dans sa jeunesse des pesantes violences, de l'esclavage notamment. Toujours samedi, le pape François a reçu les membres de l'Union des supérieurs généraux des congrégations religieuses qui ont tenu à Rome leur rencontre sur les thèmes appelés à être artisans de paix, un thème inspiré de l'encyclique Fratelli Tutti. Paix et synodalité sont les deux aspects sur lesquels le Saint-Père est revenu dans les discours qu'il leur a adressés. La paix au sens biblique du shalom est un don de Dieu, mais aussi la responsabilité de tous et de chacun. Et comme consacré a poursuivi le pape, nous sommes appelés de manière particulière à participer au processus des synodalités, étant donné que la vie consacrée est synodale par sa nature. Je souhaite que l'autorité soit exercée suivant les styles synodales qui favorisent écoute et respect mutuel, a appelé le pape François. Au chapitre des nominations, le Saint-Père a nommé nonce apostolique à l'Union européenne, Monseigneur Noel Triano, actuel évêque de Down and Connor en Irlande. Au courant de la semaine qui vient de s'achever, le pape a adressé vendredi un message au peuple ukrainien. « Votre douleur est aussi ma douleur », a écrit François, exprimant sa tristesse et sa proximité avec la population qu'il qualifie de noble et martyr. Le pape a reçu jeudi la Commission théologique internationale qui fête ses 50 ans et dont les membres se sont retrouvés après avoir été contraints au travail à distance en raison de la pandémie. L'actualité de la foi christologique professée au Concile de Nicée, des questions anthropologiques et la théologie de la création, dans une perspective trinitaire, ont fait l'objet de leurs recherches. Le pape François a poursuivi lors de son audience générale de mercredi son cycle des catéchèses sur les thèmes du discernement. Il a axé son enseignement cette fois sur la consolation spirituelle, un grand don de l'esprit pour la vie spirituelle et pour la vie dans son ensemble, qu'il faut cependant distinguer des fausses consolations. Juifs et catholiques ont en commun des trésors spirituels inestimables, professent la foi dans les créateurs du ciel et de la terre et croient que le Tout-Puissant n'est pas resté éloigné de sa création, mais s'est révélé lui-même. C'est ce qu'a souligné le pape François lors de sa rencontre mardi avec les délégués du Congrès juif mondial qui représentent les communautés et organisations juives dans plus de 100 pays. Et enfin, dans un décret publié mardi, le pape François avait nommé en vue de la restructuration des Caritas Internationalis une nouvelle équipe dirigeante provisoire.
Merci Stanislas. Direction l'église Famille de Dieu en Afrique. La conférence des évêques du Tchad a ouvert sa deuxième assemblée plénière ordinaire samedi 26 novembre à N'Djamena. Une eucharistie d'ouverture sera célébrée dimanche 27 novembre en la paroisse Saint-François d'Assise de Gassi. Cette assemblée plénière devra porter sur la vie de l'Église catholique au Tchad, ses problèmes et défis, sa relation avec les autres églises et son engagement au service de la société tchadienne. Elle se clôturera le 9 décembre 2022 par le traditionnel message de Noël et sa présentation dans une conférence de presse. L'espoir grandit en Éthiopie après les accords de paix entre le gouvernement et les rebelles du Tigré. L'église locale, particulièrement engagée dans la résolution des conflits au Tigré, appelle à se pencher sur les autres poches de conflits dans le pays, notamment dans l'Oromia, région la plus vaste et la plus peuplée du pays, où s'entremêlent insurrections armées, tensions politiques et massacres communautaires, éclipsés par le 2 ans de conflit tigréen. Les précisions de Jacques Ngol.
L'église locale d'Éthiopie a accueilli avec confiance le développement des accords de paix et maintenant elle attend avec espoir qu'ils produisent des effets. C'est ce qu'a déclaré le père Teshom Fikre Waldetensa, secrétaire général de la conférence épiscopale éthiopienne. Malgré les énormes difficultés dues à la crise, au conflit, au changement climatique et à la grave sécheresse qui frappe notre pays, la population trouve au moins un soulagement dans le fait qu'elle commence à respirer un air de paix, a souligné le secrétaire général de l'épiscopat éthiopien. Les premiers résultats positifs arrivent. Les couloirs humanitaires sont ouverts et de nombreuses organisations envoient leur soutien par le biais des convois. L'Église catholique apporte également sa contribution en étroite collaboration avec les partenaires internationaux présents dans le pays, a confié le père Fikre. Le secrétaire général de la conférence épiscopale éthiopienne souligne que le chagrin et le désespoir ne sont malheureusement pas l'apanage du Tigré. Une autre guerre se déroule encore dans la partie occidentale du pays, à laquelle aucune organisation internationale ne s'intéresse. Il y a beaucoup de personnes déplacées et beaucoup meurent chaque jour dans les combats de la guérilla dans cette région. Alors que le conflit au Tigré a acquis une visibilité internationale, nous devons également nous pencher sur les autres poches de conflit dans lesquelles tant d'autres régions du pays sont impliquées.
Merci Jacques. Voilà pour les nouvelles de l'Église. Passons à présent à notre page sur l'actualité sociopolitique africaine que nous ouvrons avec la République démocratique du Congo. La prochaine élection présidentielle est fixée au 20 décembre 2023 selon le calendrier annoncé officiellement samedi par la Commission électorale nationale indépendante. Cette annonce intervient alors que l'Est du pays reste en proie aux violences de groupes armés dont la rébellion du M23 qui contrôle une partie d'un territoire du Nord Kivu. En effet, les rebelles du M23 et l'armée congolaise s'observaient sans combattre tôt samedi matin sur les lignes de front où, selon des témoins, le calme régnait au lendemain d'un cessez-le-feu décidé cette semaine à Luanda. Mercredi, un mini-sommet organisé dans la capitale angolaise avait décidé une cessation des hostilités vendredi soir, suivi 2 jours plus tard du retrait des rebelles du M23 des zones occupées et de leur repli dans leur position initiale. Cap vers le Burkina Faso. 4 soldats ont été tués et 1 blessé dans l'explosion d'un engin artisanal vendredi dans le nord du pays, a annoncé samedi l'état-major de ce pays en proie à des attaques djihadistes récurrentes. L'incident à l'engin explosif improvisé s'est produit sur l'axe Bozanga-Kongoussi au retour d'une mission d'escorte sur Djibo, chef-lieu de la province du Soum, a indiqué l'armée dans un communiqué. Au Tchad, 401 personnes arrêtées pendant et après les manifestations du 20 octobre dernier seront jugées mardi, a annoncé le parquet de N'Djamena vendredi. Les audiences auront lieu à l'intérieur de la prison de haute sécurité de Korotoro, en plein milieu du désert, à plus de 600 km au nord-est de la capitale. Terminons cette page avec le Nigeria. Au moins 15 personnes ont été tuées vendredi par des hommes armés au cours de plusieurs attaques séparées dans l'état de Kaduna, a déclaré un responsable gouvernemental. Des gangs criminels connus localement sous le nom de bandits opèrent dans le nord-ouest et le centre du pays où ils terrorisent la population, attaquent des villages, volent du bétail, kidnappent des habitants contre rançon et incendient des maisons après les avoir pillées. Notre programme se poursuit avec le père jésuite Eric Kambalé qui nous introduit à la méditation avec les lectures du premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique A.
Chers frères et sœurs, nous voici au début d'une nouvelle année liturgique, l'année A, au cours de laquelle nous allons essentiellement lire l'Évangile selon saint Matthieu. Le temps de l'Avent, par lequel nous commençons l'année liturgique, nous invite à l'accueil tant personnel que collectif de la venue du Fils de l'homme, Jésus-Christ, dans nos vies. C'est le moment de faire le point sur notre manière d'accueillir Jésus au quotidien, de l'accueillir à l'enfant de la crèche et faire ainsi de notre vie un perpétuel Noël. De l'accueillir enfin quand les temps seront accomplis pour entrer dans sa gloire. Cet accueil du Fils de l'homme requiert de nous la vigilance à laquelle nous invite l'évangile de ce dimanche. Par l'évangile selon saint Matthieu, Jésus nous rappelle que l'avènement du Fils de l'homme sera semblable à ce qui s'est passé au temps de Noé. Ceux du peuple qui se souciaient des choses ordinaires de la vie sans aucune vigilance ont été surpris par le déluge qui les a tous engloutis alors que Noé était dans l'arche. Certes, il est des nobles préoccupations de la vie humaine, mais ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui est de veiller à ne pas oublier le Seigneur à cause de ses préoccupations, légitimes soient-elles. Dieu doit être notre première préoccupation. Le deuxième exemple que l'Évangile nous donne l'illustre mieux. Deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Par le modèle de deux hommes au champ et deux femmes au moulin, le Seigneur nous montre comment, même en nos lieux de travail, nous devons veiller, attendre sa venue. Qu'aucun des secteurs de la vie, même pas le travail, ne mette une pause à notre recherche de Dieu. Que nous le trouvions plutôt en toutes choses. Et surtout, que le travail soit pour nous le lieu de sanctification, afin qu'au jour du Fils de l'homme, nous soyons pris et non pas laissés. Le dernier exemple d'éveil que nous donne l'Évangile est celui du maître de maison qui n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison s'il avait su à quelle heure de nuit le voleur viendrait. Arrêtons-nous un instant sur l'expression « heure de nuit ». Cette heure de nuit où les yeux faiblissent, où la garde baisse, c'est proprement à cette heure-là que le Seigneur nous demande de veiller et de veiller encore. Ce temps peut représenter des périodes difficiles, des moments de doute et de désespoir. Pourtant, c'est en ce moment que le Seigneur nous promet son jour nouveau, lui le soleil de justice. Notre unique prix à payer pour accéder au jour du Seigneur est de veiller. C'est ce jour du salut que proclame la deuxième lecture tirée de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités de ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. En étant fidèles à cette recommandation de l'apôtre Paul, nous prendrons part au rassemblement de toutes les nations pour jouir de la paix éternelle au royaume de Dieu, comme nous l'annonce le prophète Isaïe dans la première lecture. Chers frères et sœurs, qu'en ce début du temps de l'Avent, la grâce du Seigneur nous soutienne dans la préparation de la venue de Jésus-Christ. Amen.
Notre invité du jour est le père Édouard Adé, président de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Prêtre béninois, le père Adé est depuis 2021 membre de la Commission théologique internationale qui a tenu son assemblée plénière à Rome du 20 au 25 novembre dernier. Dans l'interview que nous vous proposons, le théologien africain revient sur les lignes directrices proposées par le pape à la Commission théologique internationale et leur importance pour l'Église en Afrique. Le père Édouard Adé commence par nous faire l'historique de la Commission théologique internationale.
La Commission théologique internationale est l'un des fruits du Concile Vatican II. Après l'expérience que l'Église universelle a faite de l'aggiornamento de l'Église elle-même, de sa doctrine par rapport aux défis nouveaux, les pères conciliaires ont senti la nécessité donc d'avoir un organe pour accompagner dans la réflexion théologique le magistère de l'Église. Et c'est ainsi que le pape Paul VI a institué cette commission internationale de théologie. Donc, cette commission est composée de théologiens de différents continents, représentatifs de l'ensemble de l'Église universelle, des sensibilités théologiques différentes, pour pouvoir permettre au Saint-Siège d'avoir un écho du terrain de la recherche théologique qui se mène dans les différentes écoles, dans les différentes églises particulières.
Au cours de cette assemblée de la Commission théologique internationale, la commission a été reçue par le pape jeudi 24 novembre. Dans son adresse, le Saint-Père a tracé trois lignes directives pour permettre à cette commission d'aller de l'avant. La première, il s'agit de la fidélité créative à la tradition. La seconde, l'ouverture à différentes disciplines. Et la troisième ligne directrice indiquée par le Saint-Père est celle de la collégialité. Comment expliquez-vous ces orientations du Saint-Père et vous, en tant que théologien africain, leur importance pour l'Église en Afrique?
Comme vous avez bien rappelé, le Saint-Père nous a indiqué trois directions majeures. Et la première, c'est le propre de la tradition d'être une tradition vivante. La tradition est tradition parce qu'elle est vivante, et vivante, elle doit être une tradition créatrice. Et donc, le pape nous a invités à l'audace prophétique. Dans la recherche théologique, il disait, si vous enseignez la théologie et que vos étudiants ne sont pas émerveillés, ne sont pas dans l'étonnement, ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint le but. Au fond, l'étonnement, la surprise, l'émerveillement que doit susciter cette communication de la recherche théologique, c'est un point important que le Saint-Père a souligné. Deuxième axe, c'est de pouvoir travailler dans l'esprit synodal, de faire corps dans l'Église, quoique provenant d'horizons divers, d'écoles diverses, et donc de marcher de façon synodale, essayer comme corps de faire avancer la recherche théologique. Et cette recherche théologique ne peut avancer de façon organique que parce que nous sommes aussi en dialogue avec le monde. D'où la nécessité de promouvoir et dans nos facultés de théologie, dans nos universités catholiques, une transdisciplinarité. Il disait qu'il ne faut pas simplement s'arrêter à une interdisciplinarité de faible densité, donc juste des points de contact entre les disciplines, où c'est un minimum qui est mis ensemble, mais d'arriver à une interdisciplinarité au sens fort du terme, donc une transdisciplinarité. C'est d'ailleurs pour ça que dans la constitution apostolique Veritatis Gaudium, il avait insisté pour que autour des facultés de théologie, il y ait des centres de recherche en théologie et dans d'autres sciences qui permettent à la science théologique d'être en dialogue avec toute la recherche scientifique qui se mène. La théologie de l'Église africaine est déjà une théologie de l'inventivité, étant donné que le donné, le révélé, nous a été apporté en Afrique, alors que nous avions une tradition culturelle, une tradition religieuse. Nous avons reçu l'annonce de la bonne nouvelle et, comme Africains, à partir de notre culture, nous avons voulu nous approprier la foi chrétienne. Cette appropriation, telle que nos aînés ont commencé, l'ont faite en théologie, a été une appropriation inventive. Donc, depuis la première génération des théologiens africains de l'époque moderne, on a eu un mouvement d'inventivité, de créativité de la théologie et qui continue à chaque moment historique. Depuis des prêtres noirs s'interrogent de 1956 à nos jours, la théologie en Afrique a connu des bons qualitatifs, qui est signe que cette fidélité inventive à la tradition est en œuvre en Afrique.
C'était le père Édouard Adé, président de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et membre de la Commission théologique internationale. Il répondait aux questions de Françoise Niamia.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de notre programme que Christian Combé a eu le plaisir de vous présenter. Et merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence et même radio.